Bonsoir. Ils veulent avant tout combattre la PMA sans père. Les opposants à son extension ont défilé à Paris à l'appel notamment de la Manif pour tous. Évidemment, il y a eu des failles. Christophe Castaner le reconnaît 3 jours après le quadruple meurtre à la préfecture de police de Paris. Mais le ministère de l'Intérieur répète qu'aucun élément sur la radicalisation du tueur ne figurait dans son dossier administratif. Aux États-Unis, un deuxième lanceur d'alerte souhaiterait être entendu, prêt à témoigner contre Donald Trump. L'affaire ukrainienne qui vaut au président américain une procédure de destitution. Et puis qualifiée sans briller, l'équipe de France de rugby jouera les quarts de finale de la Coupe du Monde au Japon après sa fade victoire sur les Tonga.
France Inter.
On est loin de l'ampleur des rassemblements contre le mariage homosexuel il y a 6 ans, mais plusieurs dizaines de milliers d'opposants à la PMA pour toutes les femmes ont défilé tout à l'heure à Paris, alors que le projet de loi bioéthique est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Les manifestants espèrent encore peser pour un retrait du texte. À l'appel de cette manifestation, une vingtaine d'associations, dont la Manif pour tous. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Vous avez suivi le cortège et fait ce constat. L'esprit de la Manif pour tous est bel et bien là.
Le drapeau rose de la Manif pour tous est désormais supplanté par d'autres, vert, rouge, floqué du slogan « Liberté, égalité, paternité ». Mais effectivement, l'esprit est toujours là.
Papa, papa, tu es fantastique. Et papa, rien ne pourra te remplacer. J'ai besoin de ta force.
Beaucoup de catholiques pratiquants ici, beaucoup de jeunes enfants. Lors des manifestations de 2012-2013, Marie est étudiante en histoire, elle a 20 ans.
Ces manifestations, elles m'ont formée, elles ont fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Parce que quand on a 12 ans, aller dans la rue et se battre pour quelque chose, c'est pas anodin. Et aussi voir comment on a été traité à l'époque, c'est pas dans cette société que j'ai envie de vivre. Ça m'inquiète pour le futur de mes futurs enfants.
Parmi les organisateurs plus discrets que les provis d'Alliance Vita, par exemple, moins voyants aussi que les prêtres en soutane, il y a des chrétiens marqués à gauche, comme Patrice Aubert, président de l'association Les Poissons Roses.
Un certain nombre de personnes nous disent « mais oui, mais vous allez être assimilés, intégrés avec les autres manifestants ». Nous savons que nous sommes sur une ligne de crête. Mais en même temps, nous considérons que devant l'ampleur des conséquences symboliques de cette loi, ça ne va pas changer le cours du monde ni la vie quotidienne demain, bien entendu. Il est important de dire non, que cette gauche humaniste, elle soit aussi présente pour être contre l'extension de la PMA.
Beaucoup de manifestants aujourd'hui espèrent vraiment l'abandon du projet de loi sur la PMA.
Julie Pietri avec Marc Garvenès à la technique. La liste des féminicides en France s'allonge. Une femme de 33 ans tuée la nuit dernière près de Morlaix dans le Finistère, sans doute par son mari qui aurait lui-même appelé la police. Par ailleurs, dans l'Eure, un septuagénaire a tué ce matin par arme à feu sa femme avec qui il était séparé, ainsi qu'une amie qui l'hébergeait. L'homme s'est ensuite suicidé. Les députés et sénateurs de la délégation parlementaire au renseignement ont de nombreuses questions à lui poser. Christophe Castaner sera auditionné mardi sur les éventuels dysfonctionnements qui ont mené à la tuerie de la préfecture de police de Paris jeudi. 4 fonctionnaires assassinés par un collègue dont on sait aujourd'hui qu'il était radicalisé. Avant cette audition, le ministre de l'Intérieur s'est expliqué tout à l'heure dans le journal de 13h de TF1. Il reconnaît des failles, n'exclut pas des sanctions, mais répète que la radicalisation de l'agresseur n'était pas officiellement connue.
Quand on regarde le dossier administratif de l'auteur, aucun élément sur une quelconque radicalisation apparaît. Rien dans son dossier ne laissait paraître cela, mais qu'effectivement, certains de ses collègues de travail, 2, auraient en juillet 2015 fait état d'un comportement anormal et d'une altercation suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Ils auraient, selon les informations qui m'ont été communiquées, décidé de ne pas faire de signalement. Si ces faits sont confirmés, le dysfonctionnement se fait à ce moment-là. Parce que si, à ce moment-là, on faisait une enquête plus efficace, plus utile, plus approfondie sur la réalité de ce qui était évoqué, je pense que peut-être nous aurions évité le pire et cette situation. Donc, s'il y a eu des fautes, nous les corrigerons. Et s'il y a eu des erreurs d'appréciation, il faudra les sanctionner. C'est indispensable.
Et France Inter s'est procuré la note de la patronne du renseignement parisien sur laquelle Christophe Castaner s'est basé. Elle confirme que de nombreuses procédures de criblage des agents ont été mises en place depuis son arrivée, mais que l'agresseur n'y avait pas été soumis. On y reviendra longuement dans le journal de 19h d'Yves Decamp, note également dévoilée sur le site internet franceinter.fr. Et Christophe Castaner a également exclu tout à l'heure de démissionner, ce que réclament la droite et l'extrême droite. Ce soir, Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche, persiste.
Quand un ministre a des difficultés à gérer des gilets jaunes, quand un ministre se retrouve en boîte de nuit alors qu'il devrait être ailleurs, quand un ministre bénéficie à ce point des protections du chef de l'État, je crois qu'il faut quand même se poser la question. Là, il ne s'agit pas d'envoyer des choses en l'air. On joue, excusez-moi l'expression, avec la sécurité de nos concitoyens. En interne, au sein même de la préfecture de police de Paris, on a 4 morts parce que le ministre reconnaît qu'il y a eu des défaillances, des dysfonctionnements.
Donc vous réclamez toujours la démission de Christophe Castaner ?
Ah ben écoutez, je crois qu'effectivement, elle est réellement d'actualité. Quand on n'est pas à même d'assurer ses responsabilités, eh bien on en tire les conclusions.
Philippe Gosselin chez nos confrères de France Info. Après avoir occupé pendant 17 heures un centre commercial du sud-est de Paris, hier, des militants du mouvement Extinction Rébellion dans le parc de la Villette, ils ont prévu toute une série d'actions dans plusieurs dizaines de villes dans le monde. Le mouvement prône la désobéissance civile et des actions non violentes pour forcer les gouvernements à agir pour le climat. Aux États-Unis, la probabilité pour que la procédure de destitution Donald Trump aboutisse est quasi nulle. Mais le président américain, tout de même embêté par les informations données par un lanceur d'alerte concernant une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien. Ce lanceur d'alerte affirme que Donald Trump aurait demandé des informations sur son adversaire démocrate Joe Biden. La presse américaine confirme qu'au moins un autre lanceur d'alerte souhaiterait être entendu par cette commission du renseignement. Précision Grégory Phillips.
Un premier lanceur d'alerte, présenté par le New York Times comme membre de la CIA, a donc révélé mi-août le contenu de cette conversation entre Trump et Zelensky et saisi l'inspection générale du renseignement. Ce dimanche, l'avocat de cet individu, dont personne ne connaît l'identité, affirme qu'un deuxième whistleblower, comme on dit ici, a déjà été entendu par l'inspection générale des services. Lui aussi reste anonyme, il n'a pas encore témoigné devant les 3 commissions parlementaires chargées de l'enquête. L'avocat affirme que cet homme, où cette femme travaille aussi pour les services de renseignement et surtout qu'il ou elle a une connaissance directe du contenu de cet appel téléphonique. Un autre avocat, enfin, affirme avoir été saisi par plusieurs personnes travaillant au sein de l'administration. Visiblement, le premier lanceur d'alerte à l'origine de l'enquête n'a pas été le seul à la Maison-Blanche à être interloqué par cette conversation entre les deux dirigeants. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
On a appris la mort de Philippe Thom, le scénariste belge co-créateur du Petit Spirou et Soda. Il avait 62 ans. Laborieux, brouillon, décevant, le 15 de France de rugby, mais qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Japon après sa victoire sans panache ce matin face au Tonga, 23-21. Difficile de se satisfaire de ce match, alors Jacques Brunel, le sélectionneur de l'équipe de France, ne veut retenir que le positif.
D'abord, c'est la qualification. C'était notre premier objectif. Il n'était pas facile. On était dans une poule, je ne vais pas vous le raconter, vous le savez, compliquée. On avait des étapes à passer. On les a passées avec quelquefois des difficultés, mais on les a passées. Donc aujourd'hui, c'en était une différente. Avec difficulté, on l'a passée. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même la première chose, c'est la qualification qui nous satisfait pleinement.
Jacques Brunel au micro de Jérôme Val, autres équipes qualifiées pour l'écart, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. L'Angleterre, prochain adversaire des Bleus, ça sera samedi prochain, mais toujours en match de poule. La fin de la 9e journée de Ligue 1 de foot avec le derby Saint-Etienne-Lyon, rivalité exacerbée par la récente nomination de Claude Puel, ancien entraîneur lyonnais au poste de coach de Saint-Etienne. Tout à l'heure, Lille et Nîmes se sont séparés sur un nul, 2-2. Rennes et Reims s'affrontent en ce moment, 0-0 à la mi-temps. On fait un point sur vos conditions de circulation avec vous, Manon, votre Cholet et des ralentissements sur la 6.
Oui, en direction de Dijon après un accident entre 2 voitures à hauteur d'Aiguilly au kilomètre 257. Un bouchon de plus de 2 km s'est formé. Il faut compter 2 heures de route entre Avallon et Beaune. C'est 2 fois plus qu'en temps normal. Circulation ralentie aussi sur la 61 en direction de Toulouse cette fois. L'autoroute a été totalement coupée il y a 2 heures après un accident. Elle est bien rouverte mais le trafic est chargé depuis Narbonne et jusqu'à Toulouse. Et puis en région parisienne, quelques ralentissements déjà en direction de la capitale, notamment sur la 10 à partir de Massy, avant de rejoindre la 6 avec plusieurs minutes de ralentissement, sans arrêt total pour autant.
Manon Vautier-Chollet, OPC Mobilité de Radio France. Et puis quel temps demain ?
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Beaucoup de vent ce lundi sur le bassin méditerranéen, jusqu'à 100 km/h pour les rafales de secteur nord sur la Corse, également pour le Mistral et la Tramontane, avec du soleil du golfe du Lion à la Provence, mais des orages sur la Corse, avec de plus fortes précipitations sur l'est de l'île. Sur le reste du pays, entre les pluies résiduelles de la fin de la nuit sur la façade est, parfois sous forme de neige des 1500 mètres sur les préalpes, et l'arrivée de nouvelles pluies le matin par la Bretagne, gagnant rapidement vers les pays de la Loire et la Normandie, c'est un ciel souvent chargé qui va persister sur la plupart des régions, le tout dans des températures maximales comparables à celles que nous avons eues ce week-end.